Au départ, on a eu une déflation par la dette, un choc sur le crédit et les banques, mais maintenant la crise, elle se traduit par des faillites qui se stabilisent mais à haut niveau, par du chômage et puis par une crise sur les dettes publiques, dont le dernier exemple, le problème de la Grèce. Donc d'un côté, on peut dire que nous avons réussi à échapper à une nouvelle crise des années 30 avec un cycle déflationniste, mais d'une certaine manière, le plus compliqué est devant nous, c'est-à-dire arriver à coordonner les politiques économiques pour la sortie de crise, essayer de faire face aux séquelles des interventions qu'il a fallu faire, donc les dettes publiques, on en a parlé, mais aussi la politique monétaire des taux zéro qui crée le risque de nouvelles bulles. Et puis enfin, il faut arriver à convertir le modèle de la mondialisation, c'est-à-dire le face-à-face entre un certain nombre de pays qui s'endettaient pour consommer et importer, c'était les États-Unis, l'Espagne ou l'Irlande, et puis de l'autre, des pays qui, eux, épargnaient férocement, comme la Chine, où le taux d'épargne atteint 45%, et qui investissaient et qui exportaient, et ce qui a permis d'accumuler les 2400 milliards de dollars de réserves de change de la Chine.
Comment est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, les pays européens développés peuvent bouleverser, réformer le problème structurel qui les paralyse?
Premièrement, qu'est-ce qu'on peut voir comme nouveau moteur de la croissance? Il y a la demande des nouvelles classes moyennes des pays du Sud, il y a l'économie verte, et puis l'économie de la connaissance. De toute manière, dans tout le monde développé, ça veut dire qu'il va falloir faire des gains de productivité, et pour faire des gains de productivité, faire de la recherche, du développement, et essayer d'avoir un maximum de créativité. Donc aujourd'hui, l'Espagne, l'Italie, la Grèce doivent absolument réformer leur modèle économique pour pouvoir créer de la croissance, et c'est ultimement la croissance qui permettra de se désendetter. En Europe, le seul pays qui est à niveau aujourd'hui, c'est l'Allemagne, qui a reconstitué la compétitivité de son industrie et sa force exportatrice.
Récemment, on a entendu plusieurs ministres européens des finances dire que c'était à chaque pays de s'en sortir seul. Est-ce que l'Union européenne a une responsabilité, un rôle à jouer par rapport à cette réforme de modèle économique?
On ne peut sortir de ce choc qu'avec des politiques coordonnées. Si on fait de la dévaluation compétitive les uns contre les autres, c'est ce que font les Britanniques parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix, mais on va se détruire les uns les autres. Si on fait du protectionnisme, ben simplement on va détruire une des sources possibles de la croissance qui est le commerce international et qui est en train de reprendre très vigoureusement. Et si ensuite on essaye d'avoir des politiques non coopératives, soit sur le plan fiscal, soit sur le plan de la politique industrielle, on va là aussi aboutir très vite à des effets négatifs, cumulatifs pour les uns et pour les autres.
Et du coup, c'est quoi l'enjeu majeur pour l'Union européenne?
C'est d'avoir des politiques coopératives de sortie de crise, notamment pour la normalisation de la politique économique, c'est-à-dire la diminution progressive des déficits et puis la sortie des taux zéro et donc le fait d'avoir de nouveau des taux d'intérêt positifs. L'autre point sur lequel l'Europe pourrait être utile, c'est bien sûr tout ce qui concerne la politique industrielle et la compétitivité. Enfin, le dernier élément de coopération pour les pays qui sont en difficulté, d'accepter des programmes de réforme qui soient sérieux.
Peu de voix s'expriment au sein de l'Union européenne pour cette coopération et cette solidarité.
C'est la grande ambiguïté de la gestion de cette crise, c'est-à-dire que l'Europe, de fait, est passée largement à côté. Le vrai problème de l'Europe, c'est que c'est un continent qui est vieillissant, surendetté, sous-compétitif, qui enfin n'a pas d'unité politique et de système de décision en matière économique. Donc si on met ça bout à bout, le capitalisme de la seconde moitié du XXe siècle, c'était les États-Unis plus le Japon et l'Europe. Le capitalisme du XXIe siècle, c'est les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, l'Europe, elle risque de basculer en troisième division. C'est ça le vrai risque.